vous présente donc Wendelin Werner, qui va vous donner la conférence. Il est né en 1968, il est mathématicien. Il est chercheur au CNRS dans l'équipe probabilité, statistique et modélisation. Et depuis 1997, professeur à l'Université de Paris-Sud-Orsay, membre de l'Institut universitaire de France. Il est spécialiste du calcul des probabilités et il s'intéresse au lien entre calcul des probabilités, physique et autres domaines des mathématiques. Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Je vais lui donner la parole pour une bonne cinquantaine de minutes, et comme il l'entendra, et puis ensuite il répondra à vos questions. Voilà, merci.
Bien, merci. Alors, je vais d'abord remercier les organisateurs de l'Université Tous les Savoirs de me donner l'occasion de m'adresser à un public auquel on n'a d'habitude pas accès quand on fait de la recherche en mathématiques. En général, on fait des exposés dans des salles, des petites salles, avec une dizaine de personnes qui écoutent, peut-être la moitié qui comprennent, et puis on se sent souvent bien seul. Alors, et puis bon, d'essayer de faire un exposé comme ça, plus grand public, ça force aussi à prendre un peu de recul, et ça fait du bien aussi pour essayer de se reposer quelles sont les questions de base et à quoi on s'intéresse finalement, pourquoi on le fait, et ça oblige à une certaine remise en question, et donc c'est aussi très bien pour moi. Alors, je vais peut-être aller assez rapidement dans le vif du sujet. Une des thématiques principales en théorie des probabilités et puis en ce qu'on appelle en physique statistique également, ça consiste à essayer de comprendre des systèmes aléatoires, mais qui sont des systèmes, disons, macroscopiques, donc à grande échelle, qui sont constitués d'une multitude de petites composantes aléatoires qui sont, d'une certaine façon, on essaye d'étudier comment l'aléa microscopique, qui est diffus partout dans un grand système avec beaucoup de composantes, qu'est-ce qu'on voit, hein, qu'est-ce qui reste de cet aléa microscopique à l'échelle macroscopique, donc à grande échelle. Donc vous pouvez imaginer par exemple, donc en physique, hein, c'est l'exemple le plus simple, vous imaginez qu'il y a des tas de particules dans un gaz qui ont chacune un mouvement désordonné, qu'on ne comprend pas très bien, alors on dit que le mouvement de chaque particule au niveau microscopique est aléatoire. Et puis à grande échelle, donc dans un litre de gaz, vous avez énormément de particules, et à grande échelle, vous pouvez observer des quantités, vous voyez pas les particules, mais vous voyez autre chose, vous voyez des quantités macroscopiques qui décrivent l'état du gaz, comme la pression ou la température. Et le problème auquel on s'intéresse, c'est finalement d'essayer de comprendre comment la loi de ce qui se passe au niveau microscopique va donner lieu à ces grandeurs macroscopiques qu'on observe. Alors l'exemple le plus simple, hein, le plus ancien aussi, c'est celui où on tire à pile ou face. Alors évidemment, c'est plutôt un exemple de mathématiques, là, les particules physiques, on ne les voit plus trop, mais c'est un bon exemple parce que c'est vraiment un peu comme ça que ça se passe. Vous tirez à pile ou face un grand nombre de fois, vous avez une pièce de monnaie qui est bien tel que si vous lancez à pile ou face, vous avez une chance sur deux exactement une chance sur deux de tomber sur pile ou une chance sur deux de tomber sur face. Alors, vous lancez, évidemment, si vous lancez au hasard trois fois, le modèle n'est pas très intéressant parce que vous savez, un petit calcul va vous dire quelle est la chance d'avoir trois fois pile, combien de chances il y a pour avoir deux fois pile et une fois face, etc. Ce qui est intéressant, finalement, c'est d'essayer de comprendre quel est le comportement de la proportion du nombre de piles, de fois où vous avez trouvé pile, quand vous avez fait un très grand nombre de lancers. D'accord. Donc mathématiquement, hein, on formule ça sous la forme qu'est-ce qui se passe lorsque le nombre de lancers tend vers l'infini, quand ce nombre devient de plus en plus grand. Alors dans le cas du nombre de lancers à pile ou face, il y a la loi qu'on appelle la loi des grands nombres, qui va vous dire que plus vous lancez deux fois votre pièce de monnaie, plus la proportion de fois où vous allez observer pile va se rapprocher de 50%. D'accord ? Autrement dit, si vous lancez, par exemple, je prends un exemple, hein, vous lancez 10 000 fois une pièce de monnaie, vous allez avoir une proportion typiquement de à peu près, je ne sais pas, une fois, 10 000 fois la pièce de monnaie, vous aurez 50,2% de fois où vous aurez trouvé pile. Vous relancez une nouvelle fois 10 000 pièces de monnaie et vous retrouvez cette fois-ci 49,8% par exemple. Et puis, maintenant, si au lieu de lancer 10 000 fois votre pièce de monnaie, vous la lancez 1 million de fois, vous allez trouver cette fois-ci des proportions de l'ordre de 50,01% ou 50,02% ou 49,98%. Et on sent bien le fait que cette différence entre 1 million de pièces de monnaie et 10 000 pièces de monnaie est due au fait que on a lancé plus de fois la pièce de monnaie, et donc la proportion de nombre de piles va se rapprocher de plus en plus, a tendance à être de plus en plus proche de 50%. Donc il y a cette idée que, donc mathématiquement, on formalise ça en disant la proportion du nombre de fois où vous trouvez pile, elle va être rapprochée de plus en plus, elle va tendre vers 1,5, enfin vers 50%, quand le nombre de fois où vous lancez la pièce tend vers l'infini. Alors ça, c'est un exemple où, finalement, au niveau microscopique, il se passe des tas de choses aléatoires, vous avez tous vos lancers de pièces de monnaie, et au niveau macroscopique, donc à grande échelle, ce qu'on observe, c'est toujours la même chose, c'est 50%. Hein, c'est-à-dire, ou c'est essentiellement 50%. Donc le résultat à grande échelle que vous observez, malgré le fait qu'à petite échelle, il se passe des choses aléatoires, le résultat que vous observez à grande échelle, c'est toujours le même, il devient déterministe. Donc l'aléatoire au niveau microscopique, il a disparu. Par contre, il y a une information de l'aléatoire au niveau microscopique qui reste au niveau macroscopique, c'est 50%, c'est-à-dire quelle est la chance pour que, si je jette une pièce de monnaie, elle tombe sur pile. Si j'avais une pièce biaisée qui tombe sur pile avec 40% de probabilité, si je la lance beaucoup de fois, la proportion du nombre de piles, ça sera plus 50%, ça sera 40% que j'observerai. D'accord ? Donc il y a une information sur ce qui se passe au niveau microscopique qu'on arrive à lire à grande échelle en lançant un grand nombre de fois une pièce de monnaie. Par contre, et ça c'est important, c'est que dans ce cas, dans cet exemple précis, ce qu'on observe au niveau macroscopique, c'est toujours la même chose. C'est toujours 50%. Alors, dans le cas, par exemple, de la physique, de la physique statistique, par exemple, il y a des grandeurs, si vous imaginez à vos particules qui se déplacent de façon aléatoire dans un gaz, il y a des quantités macroscopiques qu'on associe à l'état du système, par exemple, la pression. D'accord ? La pression, c'est une quantité macroscopique qui, d'une certaine façon, décrit une moyenne qui est quelque chose du style quel est le nombre, combien il y a de particules qui vont frapper sur une petite portion de surface pendant une durée de temps donnée. Et ça, encore une fois, c'est un peu comme tout à l'heure les 50%. Même si au niveau, disons, microscopique, ce qui se passe est aléatoire et tout chaque particule fait des choses à un mouvement très désordonné, ce que vous allez observer au niveau macroscopique, c'est toujours la même chose, ça va être toujours la même pression, toujours le même nombre de particules à peu près, qui va frapper une petite portion de surface pendant une certaine durée de temps, pour un système à l'équilibre. Et donc, ça, c'est le cas, finalement, où l'aléatoire au niveau microscopique donne lieu, au niveau macroscopique, à quelque chose de déterministe. Alors, il se peut, et ça arrive en fait assez fréquemment, que l'aléatoire au niveau microscopique va se mélanger de telle façon, alors évidemment ça dépend du système et du problème qu'on étudie, va se mélanger de telle façon pour fabriquer pour qu'au niveau macroscopique, ce qu'on observe soit aléatoire aussi. D'accord ? Donc si vous regardez par exemple par la fenêtre, vous dites, autour de vous, il y a un certain nombre de choses macroscopiques dont vous avez envie de dire qu'ils ont été formés de manière aléatoire. Si vous pensez à, je sais pas, la forme d'un nuage, vous avez envie de dire, une forme, les deux nuages ne se ressemblent pas, pourtant, ce nuage-là, il aurait pu avoir telle forme, il a été constitué de façon aléatoire par la façon. Et on sent bien qu'il a été constitué par un système microscopique, c'est-à-dire que toutes les petites gouttes se sont assemblées pour fabriquer une certaine forme de nuage. Et alors, c'est ce deuxième aspect auquel je vais m'intéresser dans cet exposé. C'est finalement est-ce qu'on peut donner des exemples mathématiques de phénomènes aléatoires macroscopiques, donc à grande échelle, qui sont formés à partir d'une multitude de composantes aléatoires microscopiques. Alors, si on garde l'exemple de tout à l'heure, quand on tire à pile ou face, donc je vais vous montrer quelques petits dessins là-haut. Où est-ce que j'ai mis le pointeur ? Il est là. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici sur ce dessin ? Alors, je prends le... Alors, qu'est-ce que vous observez ici ? Ici, vous observez essentiellement 50 tirages à pile ou face. Vous avez tiré 50 fois à pile ou face. Et au fur et à mesure, quand vous voyez, vous observez pile, vous rajoutez 1. Et quand vous observez face, vous enlevez 1. D'accord ? Donc ici, on a fait pile, face, pile, 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 face, face, pile, pile, etc. Donc ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est facile hein, de faire ça sur un ordinateur, de demander à l'ordinateur de tirer au hasard des nombres, donc soit à pile ou face, et puis après de dessiner la courbe que vous obtenez comme ceci. Donc ça, c'est un exemple de courbe qu'on obtient en tirant à pile ou face, ici, 50 fois. Donc ça s'appelle ici une marche aléatoire, hein, c'est-à-dire qu'à chaque pas, hein, c'est comme si vous aviez une puce hein, qui, à chaque pas, décide de monter ou de descendre avec, en tirant à pile ou face. Alors, ça, c'est ce que vous observez si vous faites, si vous tirez à pile ou face 50 fois. Maintenant, avec un ordinateur, c'est facile de répéter la même chose beaucoup de fois. Donc, voilà un exemple de ce que vous trouvez si vous tirez à pile ou face 900 fois. D'accord ? Donc ici, vous avez, au cours du temps, vous rajoutez les plus 1 et les moins 1 à chaque pas. Voilà le genre de courbe qu'on observe quand on tire à pile ou face 900 fois et qu'on regarde l'évolution au cours du temps du nombre de piles par rapport au nombre de faces. Bien, alors on peut remarquer hein, qu'au bout de 900 coups, hein, la hauteur de la courbe, hein, c'est de l'ordre de 30 à peu près, grosso modo. Hein. Donc ici, vous voyez bien qu'ici, il y a beaucoup plus de coups que la hauteur de la courbe. C'est dû au fait que, ben, justement, en moyenne, il y a à peu près, à ce moment-là, ici, il y a à peu près autant de, on a eu à peu près autant de résultats piles que de résultats faces. Donc la différence ici, si on tombe sur 15, ça veut dire qu'on a eu 8 fois plus, enfin, il y a eu 8 piles de, bon, il y a eu 15 fois, bon, bref, il y a eu plus de piles que de faces et à peu près, il y en a eu à peu près 15. Et donc, et ça, c'est au bout de 900 coups, pile gagne de 15, ou plutôt ici en l'occurrence, de 30 points. Donc, n'empêche qu'on peut dessiner cette courbe et voir apparaître cette courbe aléatoire comme ceci, en renormalisant, c'est-à-dire en prenant la bonne échelle verticale par rapport à l'échelle horizontale qu'on se donne. Alors maintenant, si on fait la même chose avec, par exemple, 90 000, voilà le genre de courbe qu'on observe, en faisant tirant à 90 000 fois à pile ou face, et en regardant combien il y a de fois on a trouvé pile, combien de fois on a trouvé face. Et ce coup-ci, hein, la hauteur à peu près, vous voyez que c'est de l'ordre de grandeur de 300, hein, la hauteur de votre courbe. Maintenant, si vous tirez 1 million de fois à pile ou face, hein, on continue, voilà le genre de dessin que vous allez obtenir. Et ce coup-ci, hein, l'ordre de grandeur de la hauteur de la courbe, ça sera 1000 à peu près. Alors, ce qui est derrière ça, hein, c'est que vous commencez à dire que la courbe que vous observez ici, on ne voit pas tellement la différence entre l'allure générale de cette courbe-ci et l'allure générale de cette courbe-là. C'est une courbe erratique. Et en fait, on peut montrer, et c'est d'une certaine façon ce qu'on appelle le théorème central limite, ou une version un peu plus élaborée de ce qu'on appelle le théorème central limite en mathématiques, que en fait, la loi de cette courbe aléatoire qu'on observe ici, donc quand on va faire tendre le nombre de pas vers l'infini, en renormalisant convenablement l'échelle verticale, converge vers la loi d'une courbe continue aléatoire. Donc il y a un objet limite qui apparaît là. On sent bien que hein, si cet objet-là, c'est quelque chose de finalement très proche de cet objet-là, hein, c'est que quelque part, quand le nombre de pas tend vers l'infini, il y a un objet aléatoire limite qu'on appelle le mouvement brownien, donc qu'on peut comprendre comme étant le mouvement aléatoire d'une particule qui, grosso modo, à chaque instant, va choisir d'aller un peu vers le haut ou un peu vers le bas. Et donc, on voit apparaître ici un objet limite, un objet continu aléatoire, hein, parce que si je refais deux fois, si je refais retire à pile ou face 1 million de fois, je ne verrai pas la même courbe. Je verrai une courbe qui a la même allure, mais je ne verrai pas le même dessin. D'abord, ici, on a tendance à monter et puis descendre. On verra un dessin différent. Et donc, ça, c'est d'une certaine façon l'archétype, hein, l'exemple le plus connu et assez générique de ce que peut être un objet mathématique qui est un objet lui-même aléatoire, mais fabriqué à partir d'une infinité de petites composantes aléatoires qui est derrière. Bien. Alors, cet objet-là, le mouvement brownien, et plus généralement, disons, la loi gaussienne, ce qu'on appelle la loi gaussienne, c'est-à-dire la loi, enfin la distribution, la façon dont le point d'arrivée atterrit ici, hein, c'est quelque chose qui a été utilisé, qui a trouvé de nombreuses applications. Alors, en fait, un des premiers à observer ce genre de courbe et à formuler l'idée qu'il devait y avoir une courbe aléatoire, un objet, disons, mathématique derrière, c'est Bachelier, hein, à peu près au tournant du siècle, enfin, entre le 19e et le 20e, qui, en fait, essayait de comprendre l'évolution des cours de la bourse. Donc, il observait des courbes comme ça, vous en avez déjà vu, des courbes de ce type-là, on a regardé l'évolution des cours d'une action ou de quelque chose comme ça, et des courbes qui ont une allure comme ça, très oscillante, mais vous avez envie de dire qu'il y a de l'aléa, peut-être, ou il y a quelque chose derrière, vous avez observé ça en ouvrant votre journal, en regardant le cours de la bourse. D'accord ? Donc, de façon générale, ce genre de thématique, par exemple, d'étudier le mouvement brownien, ça a trouvé des applications aussi en dehors de la physique, par exemple, pour les problèmes de mathématiques, ce qu'on appelle les mathématiques financières. Et puis, c'est aussi l'outil de base, hein, la loi gaussienne qui est derrière, dont se servent les statisticiens pour faire des sondages, pour arriver à savoir combien de fois à combien de personnes il faut aller demander leur opinion pour avoir une vue relativement fiable de ce qu'est l'opinion au niveau national. D'accord ? Donc ce genre de thématique, hein, ce genre d'objet a trouvé des applications multiples, et puis bien sûr aussi en physique. Il intervient de façon essentielle en physique. Alors, tout à l'heure, je disais que c'était un objet presque générique, c'est-à-dire que mathématiquement, on ne connaît pas beaucoup d'objets aléatoires, donc qui correspondent vraiment à une limite concrète, à une limite macroscopique d'objets construits à partir d'une multitude de composantes microscopiques, autres que le mouvement brownien. Hein, y a un résultat général qui vous dit que, finalement, quand on regarde l'évolution au cours du temps de quelque chose, une évolution qu'on appelle markovienne, c'est-à-dire qu'une particule qui n'a pas de mémoire, qui va se déplacer dans un espace en dimension finie, forcément, son évolution, ça va ressembler à quelque chose, ça va être quelque chose qui ressemble très fort à un mouvement brownien. Donc, il n'y a pas tellement. Donc, cet exemple ici est finalement assez général. Alors, bien sûr, je disais tout à l'heure en dimension finie, ici, vous voyez que vous avez votre petite puce, à chaque instant, elle a choisi soit de monter, soit de descendre avec probabilité 1,5, mais vous pouvez aussi regarder l'évolution d'une particule dans un espace de dimension 2 ou 3, c'est-à-dire par exemple, si vous la faites déplacer votre puce dans un plan. Hein, ce coup-ci, au lieu de dire qu'elle va monter ou descendre avec probabilité 1,5, vous allez dire qu'elle va avoir une chance sur 4 d'aller vers le nord, par exemple, une chance sur 4 d'aller vers l'est, une chance sur 4 d'aller vers le sud, une chance sur 4 d'aller vers l'ouest. Et puis vous regardez l'évolution de cette par où elle passe. Et alors si on regarde, voilà un exemple, hein, voilà, ça c'est une trajectoire d'une très longue marche aléatoire en dimension 2. Alors, vous ne voyez pas grand-chose. Alors bien entendu, hein, dans ce dessin, il faut bien voir que là, il n'y a plus l'évolution au cours du temps. Hein, ça, c'est simplement la trajectoire. C'est l'ensemble des points par où la particule est passée. Donc elle a commencé son trajet quelque part par là, mettons, où elle est passée par là, après elle est hop, et puis maintenant elle est quelque part ici. Donc il y a cette idée que vous avez une trajectoire plane, comme ça, qui est, on observe, assez compliquée, mais aléatoire. Alors, dans les années 50 à peu près, Paul Lévy a observé une propriété importante de l'objet limite, hein, qu'on voit apparaître ici, qui est le mouvement brownien plan. C'est l'équivalent tout à l'heure de la courbe en dimension 1 que j'avais donnée. C'est l'évolution d'une particule finalement continue qui se déplace au hasard dans le plan. Et il avait formulé, il avait remarqué une propriété importante du mouvement brownien plan, que je vais brièvement décrire ici. Alors voilà, ici, vous avez la trajectoire d'un mouvement brownien dans le plan. Et puis, j'ai mis des droites là pour expliquer ce qui va suivre. Alors maintenant, il existe des transformations du plan dans lui-même, ou d'une partie du plan dans une partie du plan, qu'on appelle des transformations conformes, qui sont essentiellement des transformations qui préservent les angles. Alors, un exemple, hein, par exemple, si vous voyez donc 2 x 6, 12 droites ici, il y a là une transformation qui correspond à une application exponentielle, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, qui va envoyer les droites ici. Donc, les droites horizontales sont envoyées sur les rayons, et les droites verticales ici sont envoyées sur des cercles. Et vous voyez que cette application préserve les angles parce que ici, les droites horizontales et verticales se coupent suivant un angle droit. Et ici, les rayons et les cercles vont aussi se couper avec un angle droit. Alors, ce que Paul Lévy avait remarqué, c'est que si je prends un mouvement brownien plan, ici, donc en ce dessin-là, et que si je prends l'image, je transporte cette trajectoire par une application qui préserve les angles. Donc ça, c'est la trajectoire qu'on observe. On transporte ça, donc par là, ici l'application exponentielle, cette longue marche aléatoire. On observe l'image hein, par cette application qui est là. Comment je vais faire ? On va faire comme ça. En fait, c'est la même courbe ici qu'on observe ici et là, sauf que ici on la met dans les coordonnées comme ça, horizontales, verticales, et ici on la met dans ses coordonnées radiales. Et ce que Paul Lévy a observé, c'est qu'en fait, la trajectoire qu'on observe ici, c'est rien d'autre qu'un mouvement brownien aussi. D'accord ? Je pars d'un mouvement brownien, je prends son image par cette transformation qui préserve les angles, et en fait, la trajectoire que j'observe ici, ça sera encore un mouvement brownien, la trajectoire d'un mouvement brownien. Alors, les raisons sont assez profondes, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais il y a cette idée que cette trajectoire continue ici, qui est le mouvement brownien plan, est invariant, sa loi est invariante par... les applications d'un domaine du plan dans un autre domaine du plan qui préservent les angles. Bien. Alors, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous regardez par la fenêtre, vous observez des phénomènes aléatoires, macroscopiques, comme les nuages, la forme des nuages, par exemple. Eh bien, et puis, ça contredit un petit peu l'idée que je viens de vous dire, qui est qu'en mathématiques, il y a pratiquement, à part le mouvement brownien, il n'y a pas tellement d'objets continus, de formes aléatoires, qu'on est capable de construire. Alors, l'idée sous-jacente à ce que je vais essayer de raconter maintenant, c'est d'essayer de comprendre un cas particulier, d'autres modèles venant aussi de la physique, hein, pour lesquels on est capable de construire un objet mathématique qui est aléatoire et de nature très différente du mouvement brownien. Alors, en fait, ça fait longtemps que les chimistes et les physiciens, hein, ils ont observé, sans doute au départ expérimentalement, que les phénomènes aléatoires se produisent souvent donc dans ce qu'on appelle, enfin, ou ce qu'ils appellent, les phénomènes de transition de phase. C'est-à-dire, lorsque vous avez quand vous êtes, par exemple, à température critique, c'est-à-dire au moment où vous avez deux phases, par exemple liquide, gazeuse, ou alors qui coexistent, que finalement, là, si on regarde si on regarde très précisément l'interface, donc la frontière entre ces deux phases, que finalement, à cet endroit-là, on va observer des phénomènes aléatoires macroscopiques. On va observer des choses aléatoires. Et si on pense à l'exemple, bon, c'est un peu grossier hein, comme ce que je fais comme caricature là, avec les nuages, mais si on pense à l'exemple des nuages, ce qu'on va observer, la chose aléatoire qu'on voit, c'est aussi quelque chose qui va séparer l'endroit où il y a de l'eau et l'endroit où il y a de l'air. Donc c'est cette forme aléatoire. Et alors, ce qui se produit, hein, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est que finalement, dans le cas de phénomènes aléatoires dans le plan, donc dans le cas où finalement donc c'est très différent du nuage, hein, vous intéressez à des phénomènes aléatoires dans le plan, c'est-à-dire vous avez des domaines par exemple aléatoires dans le plan, et puis vous regardez la nature de la frontière de ces domaines aléatoires, et que qui correspondent en général à des modèles physiques qui sont à la transition de phase, donc à la température critique, au moment où il y a un changement de comportement de votre système, On est capable, finalement, maintenant, d'arriver à appréhender et de commencer à comprendre les objets macroscopiques qui apparaissent. Alors, plutôt que de faire, vous raconter des généralités, je vais prendre un exemple spécifique, concret, simple. Donc, vous avez remarqué que je fais faire attention de ne montrer aucune formule mathématique sur le tableau, si peut-être, et de vous montrer que des dessins. Alors, voilà un réseau en nid d'abeilles. D'accord ? Vous avez des tas d'hexagones. Et le modèle que je vais vous décrire, ça s'appelle, dans notre jargon, la percolation. Enfin, un cas particulier de percolation critique. Alors, comment on fabrique notre modèle ? Eh bien, c'est comme tout à l'heure, on tire un grand nombre de fois à pile ou face. Si jamais le résultat du lancer est pile, on colorie l'hexagone en noir, et si le résultat est face, on colorie l'hexagone en blanc. Et on fait ça pour chacun des hexagones. Donc, qu'est-ce que c'est le genre d'image qu'on voit ? C'est quelque chose comme ça. Alors, vous oubliez, vous ne faites pas attention au bord, là, parce qu'ici, j'ai colorié un bord en blanc et encore un bord en noir, enfin, en blanc ici et en noir ici. Vous ne faites pas attention au bord. Voilà, ça, c'est un exemple de figure qu'on observe quand chaque hexagone est tiré, enfin, on choisit pour chaque hexagone de tirer à pile ou face pour décider s'il est blanc et s'il est noir. Ce qui est important, c'est qu'on choisit une pièce différente pour chacun des hexagones, et donc le fait que celui-là soit blanc ou noir n'influe pas sur le fait que le voisin soit blanc ou noir. Donc ça, c'est le modèle de la percolation critique pour ce modèle-là. Alors pourquoi critique ? Parce qu'effectivement, on pourrait, au lieu de décider que là, on choisit probabilité 1,5-1,5 de colorier en blanc ou noir, on pourrait choisir une autre probabilité. Et il se trouve, par exemple, avec 3 chances sur 4 d'être blanc et 1 chance sur 4 d'être noir, et il se trouve que 1,5-1,5, c'est l'endroit où il se passe quelque chose d'intéressant, où on observe ce qu'on appelle une transition de phase. Alors, bien sûr, quand on observe un système comme ça, macroscopique, il faut décider ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on a envie de savoir, là ? Vous voyez que si on cherche à savoir là, combien il y a d'hexagones blancs par rapport au nombre d'hexagones noirs, c'est la question de tout à l'heure. On tirait un grand nombre de fois à pile ou face, et on compare combien il y a de blancs par rapport au nombre de noirs. Donc, ce n'est pas ça qui va nous intéresser ici. Si je vous ai montré ce dessin-là, c'est parce que finalement, ce qui va nous intéresser, c'est les propriétés finalement de connectivité du dessin qu'on voit là, c'est-à-dire quelles sont les formes des îles blanches ou des îles noires qu'on va voir apparaître dans ce dessin. Par exemple, est-ce qu'il existe un chemin blanc qui va de gauche à droite dans ce rectangle ? C'est ce genre de questions-là qu'on va se poser. Alors pour la petite histoire, une des personnes qui a formalisé ce genre de modèle pour la première fois, c'est un mathématicien anglais qui s'appelle Hammersley, qui se posait la question, alors bien entendu, là, c'est ultra simplifié, mais d'essayer de fabriquer. Au départ, il avait une vraie motivation appliquée qui consistait à essayer de fabriquer des filtres pour éviter que les mineurs anglais qui descendaient dans les mines de charbon n'avalent trop de petites particules. Et donc, il voulait savoir, par exemple, si vous faites un filtre comme ça, bon, normalement, c'est en dimension 3, savoir si les particules, par exemple, ici, qui viennent de là, elles ont une possibilité de passer et de traverser le filtre pour être inhalées ensuite. Donc vous sentez bien que ce genre de modèle peut être un peu appliqué. Alors bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe quand le nombre d'hexagones tend vers l'infini. Et donc dans ce dessin-là, ce qu'on va faire, c'est un peu comme tout à l'heure dans le cas du démarche aléatoire, au lieu de faire tendre, de prendre une boîte de plus en plus grande et de faire tendre le nombre d'hexagones vers l'infini comme ça, on va dire que les hexagones deviennent de plus en plus petits. C'est la même chose, il suffit de regarder, on regarde à une échelle différente. Alors voilà le genre d'image que vous allez observer. Si vous faites beaucoup de... Alors peut-être que je vais... Si vous tirez au hasard beaucoup, 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 vous voyez là, ça c'est ce qu'on voyait à petite échelle, et puis là, on essaie de comprendre quelles sont les propriétés de connectivité ici à très grande échelle. Alors la première chose que vous avez envie de dire, c'est qu'on ne voit rien du tout, puisque on voit un espèce d'écran de télé gris. Typiquement, si je vous pose la question, est-ce qu'il existe un chemin blanc qui va de ce côté-là du rectangle à ce côté-là du rectangle, vous avez une réponse, j'en sais rien, je ne le vois pas. D'accord ? Ce qui est la bonne réponse, parce que c'est très compliqué d'arriver à savoir s'il existe un chemin qui arrive à passer de gauche à droite. N'empêche que c'est ça la question, la question qu'on se pose. Alors, il y a une observation particulière qu'on peut faire, qui est très simple. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont joué à un jeu qui s'appelle X. HEX, qui était assez populaire il y a un certain nombre d'années, mais je crois que ça a un peu disparu. Voilà, je prends un hexagone comme ça, un losange comme ça, formé de tas de petits hexagones. Vous posez la question suivante, est-ce qu'il existe un chemin blanc qui relie la partie gauche ici à la partie droite du losange? Vous posez cette question-là. Alors vous réfléchissez un petit peu et puis vous dites, de deux choses l'une, ou bien il y a un chemin blanc qui arrive à aller de gauche à droite, ou bien il n'y en a pas, et s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y a un chemin noir qui va de bas en haut et qui le bloque. D'accord ? Pour empêcher les trajectoires blanches ici de traverser, ben il faut qu'elles soient bloquées par un chemin noir. Alors ici, en l'occurrence, il y a un chemin blanc ici qui fait un trajet assez compliqué ici, qui traverse de gauche à droite. Du coup, il n'y a pas de chemin noir qui va de bas en haut. Donc, de deux choses l'une, ou bien il y a un chemin blanc qui va de gauche à droite, ou bien un chemin noir qui va de bas en haut. Mais on a une chance sur deux d'avoir choisi blanc ou noir. Et puis, un losange, c'est symétrique. Hein. Là, vous pouvez vous poser la même question. Savoir s'il y a un chemin noir qui va de gauche à droite comme ceci, dans ce losange. Donc, tout ça pour dire, vous avez autant de chances d'avoir un croisement de gauche à droite d'hexagone blanc que d'avoir un croisement de bas en haut d'hexagone noir. Ces deux événements, ils vont se produire, ils ont autant de chances de se produire l'un que l'autre. Et puis, vous savez par ailleurs que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, conclusion, il y a une chance sur deux pour que les hexagones blancs gagnent et il y a un trajet de gauche à droite pour l'hexagone blanc, et il y a une chance sur deux pour qu'il y ait un trajet de bas en haut d'hexagone noir. D'accord ? Donc dans ce dessin, et ça c'est vrai quelle que soit la taille du losange. Autrement dit, si je prends un losange beaucoup plus avec des tas de tout petits hexagones, même si je vois rien, on est capable de dire qu'il y aura toujours une chance sur deux pour qu'il y ait un trajet blanc de gauche à droite ici, et une chance sur deux pour qu'il y ait un trajet de bas en haut qui soit noir. D'accord ? Donc vous voyez apparaître l'idée que, ici, au niveau macroscopique, il y a des choses aléatoires qui se passent, puisque ici, il y a un événement, est-ce qu'il existe un croisement de gauche à droite, qui va avoir toujours une probabilité 1,5, donc qui n'est jamais toujours vrai, jamais toujours faux, qui est aléatoire. Donc ici, au niveau macroscopique, on voit apparaître l'idée qu'il existe des choses aléatoires qui sont fabriquées à partir de toutes ces petites composantes microscopiques, elles-mêmes aléatoires. Alors, une question de base, par exemple, c'est d'essayer de dire, maintenant, si on essaye de faire la même chose que pour le losange, par exemple, pour un rectangle. Je prends un rectangle, ici, d'une certaine taille, et puis j'essaye de poser la question, est-ce qu'il existe un croisement de gauche à droite dans ce rectangle ? Alors, il n'y a pas de formule explicite qui permet de dire, voilà, la probabilité pour que dans ce rectangle-là, il y ait un croisement de gauche à droite, ça vaut tant, ça ne marche pas. Quand n devient très grand, hein, c'est très compliqué à énumérer. Et il n'y a pas de formule explicite qui permet de donner la probabilité pour qu'il y ait un chemin de gauche à droite ici, qui soit blanc. Alors, n'empêche, vous pouvez essayer d'avoir de plus en plus, donc des hexagones de plus en plus petits dans votre rectangle de taille que vous avez fixé, et essayer de voir, ben, est-ce qu'il y a une valeur limite, hein, dans le dessin qui est là, pour la probabilité pour qu'il existe un croisement de gauche à droite dans ce rectangle. Alors, un physicien théoricien, John Cardy, anglais, et puis un mathématicien russe, très récemment, qui s'appelle Stanislav Smirnov, donc ont proposé, tout d'abord, donc, pour Cardy, et finalement démontré mathématiquement, pour Smirnov, la formule, disons que la valeur limite qui va décrire la probabilité pour que, donc, dans l'espèce de dessin limite, dans ce dessin complètement gris, il y ait un croisement de gauche à droite d'un rectangle donné. Et dans les deux cas, hein, donc dans le cas de Cardy, les arguments de base, c'était des choses qui viennent de ce qu'on appelle la théorie conforme des champs. Et pour Smirnov, c'est des choses peut-être de nature plus combinatoire. Dans les deux cas, la notion, quelque chose de très important pour démontrer cette formule et pour essayer d'arriver à comprendre ce système de percolation limite, c'est la notion d'invariance par transformation conforme dont je vous ai parlé dans le cas du mouvement brownien tout à l'heure. Autrement dit, on s'attend, et donc ça a été démontré récemment, que l'image que vous obtenez, l'espèce d'image grise que vous obtenez à la limite, les propriétés de connectivité, de savoir qu'est-ce qui est connecté à quoi par des chemins de quelle couleur, ces propriétés-là, à la limite, vont devenir invariantes par transformation conforme. Autrement dit, si je prends l'image de ce rectangle par une application qui préserve les angles, je vais envoyer le rectangle dans un autre domaine, et l'image grise que je vais voir dans cet autre domaine comme étant transportée de celle-là par cette application qui préserve les angles, eh ben, ça sera à nouveau la même chose que ce qu'on observerait si on faisait la, la percolation limite dans cet autre domaine. Donc il y a cette notion que l'objet gris limite que vous voyez là a des propriétés d'invariance par les applications qui préservent les angles. Et donc ça c'est quelque chose d'assez profond sur lequel je veux insister un tout petit peu. Alors on arrive à donc, la formule de Cardy-Smirnov nous dit par exemple quelle est la probabilité pour que il existe un croisant dans un rectangle, et puis même dans ce rectangle-là, si on prend un rectangle plus petit, quelle est la probabilité pour que dans le rectangle plus petit, il y ait un croisement de gauche à droite par des chemins noirs ou blancs. Mais il ne va pas décrire l'objet limite, l'espèce d'écran de télé gris qu'on voit apparaître à la limite. Ça ne suffit pas de connaître les probabilités de croisement. Donc on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait décrire mathématiquement, l'écran de télé gris qu'on voit apparaître là. Alors, comme je vous l'avais mentionné tout à l'heure, une façon d'étudier les propriétés de connectivité de votre graphe aléatoire que vous voyez là, donc les formes de vos îles blanches et par rapport à vos îles noires, c'est finalement d'explorer la frontière d'îles blanches par rapport aux îles noires. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est pour ça que ici on a dessiné le bord ici supérieur et droit en blanc et le bord inférieur gauche en gris. Vous allez étudier, on se pose la question d'essayer de comprendre la courbe aléatoire qui sépare finalement l'île blanche qui se raccroche à ce bord-là de l'île noire qui se raccroche à ce bord-là. D'accord ? Il y a une seule courbe qui va séparer ces deux îles, hein, qui fait un truc comme ça. Je vais peut-être... Alors, vous voyez, hein, je fais ça à la main, ce n'est pas l'interface maths informatique, ici c'est l'interface maths physique. Donc, si j'étais plus consciencieux, vous auriez vu apparaître sur ordinateur le dessin de l'interface, et ça aurait été plus joli que ce que je viens de vous montrer là. Alors, on voit apparaître l'idée que là, il y a une courbe plane aléatoire qui est cette interface et qui va nous donner, si on réfléchit un petit peu, cette courbe va, si on connaît cette courbe, on est capable de savoir s'il y a un croisement de gauche à droite par des hexagones blancs ou de bas en haut par des hexagones noirs. Hein, simplement, si cette courbe elle touche ce bord-là avant ce bord-là, ça veut dire qu'il y a un croisement de gauche à droite par des hexagones blancs. Et si elle touche ce bord-là avant ce bord-là, ça veut dire qu'il y a un croisement de bas en haut par des hexagones noirs. Et donc, finalement, on se pose la question d'essayer de savoir quel est l'objet limite. On sent bien que là cette interface, cette courbe rouge, enfin ici, pour vous, noire plutôt, cette courbe rouge... elle est peut-être plus facile à appréhender et à comprendre que l'écran de télé gris que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la question, c'est quel est l'objet limite qu'on voit apparaître quand on regarde la limite, quand la maille ici de votre réseau tend vers zéro, quand la maille et quand vos hexagones deviennent de plus en plus petits, quelle est la limite de la loi limite de cette courbe rouge ? Alors vous sentez bien sûr, que cette courbe, elle est de nature très différente de la courbe brownienne que je vous ai montrée tout à l'heure, parce que la courbe brownienne, qui était là, c'était une courbe qui repassait des tas de fois au même point, qui se recoupait, et on repasse par un endroit, on se coupe, alors que cette courbe, par définition, hein, c'est une courbe qui n'a pas de point double, hein, qui ne repasse jamais deux fois par le même point, puisque c'est la frontière entre le domaine blanc ici et le domaine noir, et par nature, une frontière, ben, c'est une courbe simple qui ne repasse pas plusieurs fois par le même point. Et donc c'est un objet très différent du mouvement brownien de tout à l'heure. Alors, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, donc, par exemple, si on prend ce dessin ici, ce coup-ci, on a colorié en bas, la partie qui est en bas à droite en blanc et la partie en bas à gauche, on l'a colorié en noir. Et puis là, on a cette courbe qui démarre, là, qui est cette interface entre l'île blanche qui est raccrochée à ce côté-ci et l'île noire qui est accrochée à ce côté-là. Et donc, on essaye de comprendre la limite, l'objet limite qui est là, parce qu'on se dit que si on comprend cet objet limite, finalement, on va être capable de comprendre finalement toutes les propriétés de connectivité de notre écran de télé limite. Alors ici, dans ce dessin, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est cette courbe qui démarre, et puis derrière, en toile de fond, un petit peu, donc la courbe elle est en noir, et en toile de fond, hein, gris-blanc, c'est les hexagones de sous-jacents qu'on a utilisés pour définir cette courbe. D'accord ? Donc il y a votre écran de télé derrière, et puis dans cet écran de télé, vous définissez cette courbe assez erratique qu'on observe ici. Alors, cette courbe erratique, hein, elle est intéressante parce que finalement, elle explore le bord d'une île macroscopique, donc ce qu'on appelle un amas de percolation. Donc par exemple, je vous donne un exemple ici, ça c'est une île, ou une portion d'île qu'on voit apparaître quand on fait de la percolation à relativement grande échelle. Hein. Donc l'île, elle a bien sûr des trous à l'intérieur, hein, il y a des lacs à nouveau à l'intérieur de l'île, mais la courbe aléatoire qu'on étudiait tout à l'heure, hein, que je vous ai montré, finalement, c'est la courbe qui, grosso modo, va essayer d'explorer le bord de cet amas de percolation, donc le bord d'une île blanche. Alors cette courbe aléatoire, maintenant, depuis quelques années, on connaît, on arrive à comprendre donc, quel est l'objet mathématique qui apparaît à la limite. C'est-à-dire on arrive à décrire un formalisme, construire un formalisme mathématique qui permet de donner un sens au fait que ben, quand la maille du réseau ici devient de plus en plus petite, cette courbe aléatoire ressemble de plus en plus à un certain objet mathématique qu'on sait bien définir, donc qui a été introduit par Odette Schramm il y a quelques années, et qu'on peut étudier, et sur lequel on dispose d'un certain nombre d'informations. Par exemple, alors je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, on peut montrer que l'objet limite qui apparaît là, donc la courbe continue qui est là, a une dimension fractale de 7 quarts. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une dimension fractale de 7 quarts? C'est que ben, finalement, pour atteindre la distance n ici, si jamais vous pensez, vous mesurez votre distance en utilisant la taille d'un hexagone à une taille 1, si vous voulez à une distance n, il faut utiliser grosso modo n à la puissance 7 quarts petit segment. D'accord ? Donc si vous allez tout droit, hein, une courbe qui va tout droit, pour aller à distance n, elle utilise n segments droits de longueur 1, et donc sa distance, sa dimension, c'est 1. Si vous prenez une courbe qui remplit tout le plan, qui passe par tous les points, pour arriver à distance n, elle va passer par tous les points d'un cercle, mettons, et donc vous voyez qu'elle va avoir à peu près n2 pas. Il va falloir n2 pas, parce qu'il y a n2 points à visiter dans le disque. Et celle-là, donc, aura dimension 2. Donc là, vous voyez, hein, cette notion de dimension fractale qui apparaît ici. Et donc, on voit apparaître l'idée que même si l'objet limite qu'on voit apparaître est aléatoire, sa dimension, par exemple, c'est-à-dire une façon de mesurer son irrégularité, est toujours la même, c'est 7 quarts. Maintenant, si au lieu de regarder la courbe elle-même, vous regardez le bord extérieur de la courbe, c'est-à-dire vous faites une espèce d'enveloppe, là, vous fermez les fjords que vous voyez apparaître ici, quand elle fait une exploration ici, vous fermez ça. Donc c'est grosso modo ce que vous voyez quand vous regardez en fait ce dessin-là, si la frontière extérieure ici que vous observez. Celle-là, on peut démontrer qu'elle a pour dimension fractale 4 tiers, donc un peu plus petite bien sûr que la précédente. Alors le 4 tiers, le 7 quarts sont presque anecdotiques, c'est simplement pour vous dire qu'on est capable finalement de donner des informations précises sur l'objet limite qu'on construit. Et la façon dont Schramm s'y est pris hein, finalement pour construire cet objet, et d'une certaine façon, ça rentre aussi bien dans le cadre de cette série de conférences. C'est l'interface entre une partie des mathématiques et une autre partie des mathématiques. C'est-à-dire que l'idée, c'était de mélanger des idées donc de la théorie des probabilités et de la théorie, ce qu'on appelle d'analyse complexe, ou, qui est grosso modo l'étude, je schématise, hein, des transformations du plan dans, d'une partie du plan dans une partie du plan qui préserve les angles. Hein, cette notion d'invariance par transformation conforme qu'il y avait tout à l'heure. Et donc en utilisant en combinant des outils de ces deux sous-disciplines des mathématiques, finalement, on est capable de construire cet objet limite qui est là. Bien, alors, juste pour l'anecdote, hein, il y a quelque chose d'amusant qui, je pense, vaut le coup d'être signalé. C'est que je reviens à mon mouvement brownien, donc à cette trajectoire aléatoire erratique en dimension 2. Si vous regardez ce dessin, bon, finalement, ce n'est pas tellement différent du cas de l'écran de télévision gris qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne voyait rien. On ne voit pas grand-chose quand même. C'est-à-dire que vous n'allez pas être capable de me dire par où le mouvement brownien est passé et dans quel ordre, dans ce pâté noir qu'on observe par exemple ici. Ce que vous observez, ce qu'on voit quand on regarde ce dessin, essentiellement, c'est le bord extérieur. Hein. On a une île, une espèce d'île noire, et on regarde, il y a sa frontière extérieure qui apparaît ici, qui est cette courbe qui est là. Vous ne voyez pas parce que c'est rouge, il faut que je repasse en couleur. Alors en fait, début des années 80, alors je vais faire une toute petite digression, hein, je vous ai dit tout à l'heure, ou je ne sais plus si je voulais, peut-être que je ne vous l'ai pas dit, que les objets limites qu'on voit apparaître comme ça à ces interfaces, hein, c'était le cas du mouvement brownien, c'est le cas de la percolation, comme c'est des objets limites qu'on voit apparaître dans une limite d'échelle, c'est-à-dire quand on fait grandir un système et qu'on le regarde de plus en plus loin, en fait, il va avoir des propriétés d'autosimilarité, c'est-à-dire ce que vous observez à une certaine échelle, si vous prenez une loupe, que vous regardez votre système d'un peu plus près, ce que vous allez observer d'un peu plus près, essentiellement, ça va avoir la même allure que ce que vous voyez de plus loin. Dans le cas du mouvement brownien de tout à l'heure, de la courbe monodimensionnelle, vous aviez l'exemple qui est là. On avait dit que cette courbe-là, elle avait grosso modo la même allure que cette courbe-là. Les oscillations sont du même style. Et bien, en fait, la façon dont on s'y est pris pour fabriquer l'une par rapport à l'autre, c'est qu'en fait, la courbe que je vais vous montrer maintenant, c'est simplement le début de celle-là. Je prends une loupe, je regarde, je focalise simplement sur cette portion-là, je vois ça. D'accord ? Donc vous avez cette idée que l'objet que vous voyez apparaître à la limite est autosimilaire, donc ce n'est pas exactement la même chose. Quand vous prenez une loupe, on ne voit pas exactement le même objet, mais les objets aléatoires qu'on va voir à telle échelle ou à telle échelle vont avoir la même loi. Donc l'objet limite continu va être un fractal, comme les objets qui ont été popularisés par Benoît Mandelbrot pendant ces dernières décennies. Et donc typiquement, la frontière aléatoire qu'on observe ici, c'est un objet fractal. Et Mandelbrot avait fait faire des simulations pour regarder donc un mouvement brownien, il avait du coup, j'imagine, il avait regardé l'allure de la frontière, et puis il s'était rendu compte que la dimension fractale de cette frontière, donc ça devait être vers le début des années 80, fin des années 70, que la dimension fractale de cette frontière ressemblait très fort à 4 tiers. Et donc il a émis la conjecture qu'en fait, c'est pas seulement que ça ressemble très fort, mais que la frontière extérieure d'une trajectoire brownienne, longue marche aléatoire plane comme ceci, c'est 4 tiers. Alors en fait, ce qu'on peut montrer, et ce qui est amusant, parce que ces deux objets sont construits de façon totalement très différente, c'est qu'en fait, la frontière extérieure ici d'un mouvement brownien, donc de ce pâté-là, et la frontière extérieure d'un grand amas de percolation, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que la loi de ce que vous observez ici, la même chose en un sens à préciser, mais moralement c'est ça, la loi de cette courbe aléatoire très erratique que vous observez ici, statistiquement, c'est la même que la loi d'une courbe de la frontière extérieure d'un mouvement brownien, quand bien même ces deux objets ont été construits de façon très différente. Il y en a l'un, c'est une courbe qui se recoupe tout le temps, etc. Alors que l'autre, c'est le bord extérieur d'une courbe qui ne retombe pas sur elle-même. Et donc, conséquence, on ne sait pas dans cet ordre-là que ça a été démontré, mais ce n'est pas grave, la frontière extérieure d'un mouvement brownien, puisque c'est la même chose que la frontière extérieure d'un amas de percolation dont je viens de vous dire qu'il avait pour dimension 4 tiers, on sait montrer effectivement que la dimension extérieure d'un mouvement, enfin, d'une trajectoire brownienne plane, c'est effectivement 4 tiers, comme Benoît Mandelbrot l'avait suggéré. Alors pour conclure, je vais vous montrer très rapidement un autre modèle. Finalement, pour vous montrer qu'il y a des problèmes finalement très simples ou des modèles pour lesquels la physique théorique nous donne des réponses et pour lesquels en mathématiques on n'est pas capable de donner une réponse satisfaisante, c'est ce qu'on appelle les marches auto-évitantes. Donc là, le modèle est très simple. Vous fixez un certain nombre de pas, vous fixez un réseau, par exemple le réseau hexagonal, et puis vous allez décider, bon, imaginons, vous avez droit à faire des chemins de longueur 10 000, et vous allez choisir au hasard, parmi tous ceux qui sont possibles, un chemin de longueur 10 000 que vous allez dessiner sur votre réseau, avec la propriété que ce chemin ne passe pas deux fois par le même point. Donc c'est un chemin auto-évitant, ça va être une courbe simple. Alors vous pouvez simuler ça sur ordinateur, par exemple, et vous trouvez voilà, ce qu'on appelle une longue marche auto-évitante, donc c'est une courbe aléatoire comme ceci. Alors, on pense que, et pour des raisons que je ne vous décrirai pas, que en fait, la limite de cet objet-là va aussi avoir des propriétés d'invariance par transformation conforme, il va être aussi invariant par les applications qui préservent les angles. Et si jamais c'est vrai, donc le fait qu'il existe un objet limite qui est invariant par transformation conforme, alors on s'est montré que l'objet limite qui est là, c'est le même que le bord extérieur du mouvement brownien et que le bord extérieur des amas de percolation. Encore une fois, il a été construit de façon radicalement différente des deux précédents exemples. Mais statistiquement, la courbe aléatoire qu'on va voir ici, c'est toujours la même. Ça va être une courbe de dimension 4 tiers et qui est la même loi statistique que les frontières extérieures d'amas de percolation ou les frontières extérieures de trajectoire brownienne. Donc, vous avez cette notion d'universalité. C'est toujours le même objet qui apparaît à la limite, construit par des méthodes très différentes. Mais là, mathématiquement, il y a un trou. On ne s'est pas montré qu'il y a un objet limite, par exemple. Alors, pour conclure, j'ai un peu fait exprès de ne pas vous parler trop de quelles sont les personnes, qui a démontré quoi, ni de vous expliquer. Mon but, c'était plutôt de vous parler de la thématique générale, donc des recherches qui se déroulent à l'interface entre maths et physique, pas de vous expliquer la différence entre l'approche physique et l'approche mathématique. Ça aurait été un sujet intéressant, mais je ne voulais pas trop insister là-dessus. Et donc, j'ai mis sur ce dernier transparent le nom des noms, alors c'est assez arbitraire, de quelques mathématiciens et physiciens et aussi chimistes. Mandelbrot est inclassable, donc je l'ai mis dans une case à part, de quels sont les différentes des noms qui ont contribué au cours des deux dernières décennies, essentiellement, à part Flory, qui est un chimiste qui a travaillé sur les modèles de polymères, donc sur les longues chaînes de polymères, qui sont des longues chaînes qui, par définition, ne passent pas deux fois par le même point, avait étudié ces questions-là dans les années 40, qui était le premier à avoir suggéré la dimension 4 tiers comme étant une dimension qui apparaissait dans les longues marches chemins auto-évitants. Voilà, donc je vais m'arrêter là, et je vous remercie pour votre attention.
À travers votre exposé, apparaît le problème de la contingence, donc, à l'échelle microscopique, et la notion de déterminisme, de nécessité, à l'échelle macroscopique. Par exemple, dans les gaz, un fluide qui s'écoule dans un tuyau, si vous voulez, chaque molécule de gaz aura un trajet singulier, donc hasardeux et singulier. N'empêche que le gaz s'écoulera dans une direction générale donnée. Donc j'en déduis que le hasard se trouve dans le déterminisme, dans la nécessité, et sous la nécessité se trouve le hasard, si vous voulez. Donc d'un point de vue philosophique, je pense que ces deux notions sont inséparables, la notion de déterminisme et de hasard, si vous voulez. Elles sont donc toujours liées entre elles, quoi. Déterminisme ou non-déterminisme, je ne me pose pas la question, vous voyez, en ce qui me concerne. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, plusieurs choses. La première, c'est que je ne vais pas me hasarder à dans les considérations philosophiques. Mais si vous avez bien regardé, hein, ce que je vous ai raconté, justement, ce n'est pas les exemples où le hasard au niveau microscopique engendre un déterminisme macroscopique, mais c'est justement le cas où le hasard microscopique va engendrer un hasard macroscopique aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, l'évolution du fluide dans le gaz, c'est l'exemple typique donc, d'équation d'évolution déterministe qui nous disent que des choses, on sait prédire finalement l'évolution de choses, quand bien même au niveau microscopique, il se passe des choses aléatoires. Mais dans certains cas, hein, et c'est heureux parce que ça permet d'avoir des phénomènes finalement aléatoires autour de nous, des phénomènes macroscopiques peuvent être aléatoires aussi.
Ont été tracés avec des méthodes différentes, mais avec une probabilité de départ qui était la même, qui était de 1,5.
Oui.
Et elle menait à des courbes qui avaient également un invariant, qui était la dimension fractale de 4 tiers.
Oui.
Si on change la probabilité de départ, est-ce qu'on change également la dimension fractale d'arrivée ?
Alors, ça, c'est une bonne question. Ce qui est important, ce n'est pas tellement le fait que la probabilité de départ soit 1,5 ou pas 1,5. Il se trouve que dans les modèles que je vous ai exposés, c'était des modèles où il y avait beaucoup de symétrie. Donc, typiquement, ici, pour les hexagones ici blancs ou noirs, il y avait cette idée que la compétition entre les trajectoires blanches et les trajectoires noires était équilibrée si jamais on choisissait 1,5, 1,5. En fait, si jamais on changeait le graphe, ça c'est lié à des propriétés particulières, par exemple du graphe sous-jacent, qui était le fait que le graphe hexagonal a des propriétés particulières. Si j'avais pris un graphe carré, par exemple, si j'avais pris des carrés au lieu de prendre des hexagones, la compétition entre blanc et noir, enfin, il n'y aurait pas eu cette même symétrie. Et la probabilité critique, l'endroit qu'il faut regarder pour qu'il y ait une transition de phase, va pas avoir lieu à cet endroit-là. Il va falloir trouver une valeur de probabilité critique. Donc il va falloir choisir des blancs avec probabilité 0,42 et noirs avec probabilité 58, par exemple. D'accord ? Donc c'est pas tellement le fait qu'il y ait 1,5, 1,5 comme composante microscopique, c'est plutôt le fait qu'il y a une compétition entre deux candidats, là, donc là les blancs et noirs, ou alors aller vers le bas ou vers le haut de tout à l'heure, qui est équilibré. Donc cette notion de transition de phase, qu'il y a une compétition, il y a deux choses qui sont présentes, et on essaie de regarder les fluctuations d'une certaine façon à l'interface.
Comment fait-on pour reproduire expérimentalement un mouvement aléatoire sur un ordinateur, par exemple un mouvement brownien ?
Oui. Alors ça, c'est une bonne question, encore une, parce que... Bon, alors là, il y a des spécialistes de la chose. Essentiellement, il faut trouver un moyen pour que l'ordinateur engendre un nombre aléatoire. Donc, pour que l'ordinateur engendre un nombre aléatoire, il y a pas mal de méthodes. Il y a des méthodes un petit peu de théorie des nombres qui vont nous dire... je ne vais pas rentrer peut-être dans les détails... Ou alors des méthodes toutes bêtes du style, on va prendre, il y a une horloge dans l'ordinateur qui donne l'heure avec une grande précision, et puis en fonction le moment où il se passe quelque chose, on va regarder l'état de l'horloge à ce moment-là, et on va utiliser ça comme variable aléatoire, donc, ou alors mélanger différentes choses de ce type-là. Mais évidemment, on ne peut pas fabriquer le hasard dans un ordinateur de façon si simple que ça. Donc, il y a toujours un moment où les générateurs de variables aléatoires des ordinateurs peuvent être pris en défaut. C'est souvent le cas. Disons que dans les exemples que je vous ai montrés là, finalement, on cherchait 1 million ou de variables aléatoires, donc soit plus genre tirer 1 million de fois pile ou face. Et ça, ce que l'ordinateur ou que les algorithmes peuvent produire nous suffit en fait pour faire des dessins. De toute façon, ce qu'on observe, quand je vous montrais un dessin, c'est une réalisation très particulière, puisque c'est une parmi 2 à la puissance 1 million. Donc, c'est pas, je prétends pas vous dire que ce que l'ordinateur a montré là, c'est vraiment absolument typique. Mais... En tout cas, pour ce qui nous intéresse ici, le contour extérieur, ça marche, c'est-à-dire que ce qu'on observe est vraiment typique.
Oui, vous avez répondu à quelques questions que je me posais sur les dimensions fractales des courbes que vous avez décrites. Donc, je ne vais pas insister là-dessus, mais je voudrais simplement vous demander si sur certains schémas que vous avez présentés, et à niveau macroscopique, il n'y aurait pas un rapport avec certaines situations structurelles rencontrées dans le jeu de Go.
Alors la réponse est...
Parce que je vois un encerclement de... Je vois un encerclement de structures et il me semble que ça pourrait avoir un certain rapport avec ce que vous avez décrit.
Oui, alors la réponse est oui et non. C'est-à-dire que dans le jeu de Go, tout à l'heure je vous ai parlé d'un jeu qui s'appelait X, qui était exactement ce jeu-là, donc avec des hexagones comme ceci. Dans le jeu de Go, hein, c'est quelque chose qui ressemble très fort, on a des pions noirs, des pions blancs, mais ce qui se produit en fait, c'est que le... Donc là je parle pour les spécialistes du jeu de Go, j'en suis pas un, mais... ce qui va se produire, c'est que la notion d'encerclement, hein, il peut y avoir, dans le cas du jeu de Go, un domaine ici. La question, c'est le problème des diagonales, en fait. Qu'est-ce qu'on fait des diagonales? Est-ce qu'on décide qu'un chemin qui prend une diagonale est un chemin ou pas un chemin? Et c'est justement ce qui fait que le jeu de Go est intéressant, parce que finalement, quand on a fermé quelque chose, on peut quand même manger quelque chose en utilisant le pénétrant par les diagonales. Et ce qui fait que je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire que le jeu de Go soit quelque chose qui se rapproche de la percolation critique, parce que finalement, à la fois, c'est peut-être un peu long à expliquer, mais c'est presque ça, mais pas tout à fait, en fait.
Oui, j'aurais deux questions. La première, vous avez tiré au sort, en quelque sorte, pour créer un mouvement, vous avez tiré au sort gauche, droite, haut, bas. Si au lieu de quatre directions, il y en avait eu cinq, donc pas de symétrie, en tout cas pas de symétrie simple, est-ce qu'on aurait abouti au même résultat?
Alors, la réponse est oui, à condition que ça soit équilibré. C'est-à-dire qu'en moyenne, ce que vous faites au niveau microscopique, qu'en moyenne, la moyenne soit nulle. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas tendance à aller plus vers le haut que vers le bas. Alors, si vous faites ça, grosso modo, et l'objet limite sera toujours un mouvement brownien. De la même façon, et ça, c'est pas démontré, mais on pense que quel que soit le graphe sous-jacent de percolation, donc là, j'ai pris le graphe hexagonal qui a des propriétés particulières, donc pour lequel on peut démontrer mathématiquement des choses, il y a cette idée que quel que soit le graphe qu'on prend, si on choisit bien la valeur de la percolation critique, la valeur de la probabilité critique, donc savoir ce qui est blanc et ce qui est noir. L'objet, l'écran de télé gris, d'une certaine façon, les relations de connectivité à grande échelle qu'on va observer seront les mêmes. C'est-à-dire que l'objet limite continu qu'on voit apparaître est d'une certaine façon plus universel que l'objet, plus naturel que l'objet de départ. Parce qu'au départ, on avait fait cette approximation qui dit on vit dans un réseau carré, on vit dans un réseau rectangulaire, on vit dans un réseau hexagonal, les particules elles peuvent seulement se déplacer sur un réseau hexagonal. Et c'est ça qui rend ces objets limites aussi intéressants, c'est qu'ils sont universels au sens que quel que soit le modèle de percolation dont on part, c'est ce qu'on croit, l'objet limite, ça sera toujours le même. De la même façon que, quelle que soit la loi microscopique, l'objet macroscopique aléatoire qu'on va voir apparaître, émerger, sera toujours le même.
Et ma deuxième question, vous avez dit que l'aléatoire microscopique aboutissait à l'aléatoire macroscopique. Si vous prenez un jeu de roulette, par exemple, est-ce que vous pouvez, au bout d'un certain nombre de coups, déterminer si la roulette est truquée ou pas?
Alors ça, c'est le genre de questions qu'on se pose, donc, que j'ai brièvement mentionné en parlant un petit peu de sondage ou de choses comme ça au départ. Là, l'idée, la réponse est oui. Alors, bien sûr, on n'est jamais, comme c'est toujours des probabilités, on n'est jamais sûr à 100% de la réponse. Hein. Il se peut que la roulette ne soit pas truquée et qu'on ait lancé 100 000 fois et que 100 000 fois, ça soit tombé sur le zéro. Alors, on a envie de dire que c'est truqué, mais bon, c'est jamais totalement impossible. Mais vous sentez bien que une chance sur 36 à la puissance 1 million, c'est quand même très peu probable. Donc, de la même façon, On est capable, hein, c'est, ce que, c'est le travail des statisticiens en général, de, à partir d'échantillons, d'observations, de déterminer, de donner une bande, enfin, avec une confiance, une certaine confiance, une réponse quant à le modèle, enfin la réalité qu'il y a derrière du modèle. Donc c'est ce qu'ils font quand ils font des sondages, hein, ils posent des questions à par exemple 1000 personnes et ils essayent d'en déduire une information sur l'état réel de l'opinion.
Je voulais simplement revenir sur les courbes initiales où on avait un schéma avec plus 1, moins 1 en fonction du tirage. Et on assiste donc apparemment à une progression de l'amplitude du mouvement, descendant ou ascendant, en fonction du nombre de tirages.
Oui.
Est-ce qu'il y a apparemment, il semblerait qu'on ait une loi de type logarithme ou autre entre l'amplitude de ce mouvement et le nombre de tirages? Est-ce qu'il y a une loi qui a pu être démontrée à ce niveau?
Oui, alors... La relation, hein, j'ai un peu éludé ce point-là, mais la relation, c'est grosso modo que la hauteur est de l'ordre de grandeur de la racine carrée de la longueur. Hein. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai parlé, par exemple, 90 000, et là, c'est la hauteur est de l'ordre de 300. C'est ça. Et ça, oui, c'est connu depuis bien longtemps. Hein. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle le théorème central limite, finalement, qui dit que l'oscillation est de l'ordre de grandeur de la racine de la hauteur, et la loi, c'est ce qu'on appelle une loi gaussienne. Et donc c'est connu vraiment depuis très longtemps, et c'est vraiment le premier résultat de théorie des probabilités qu'on enseigne finalement, qu'on apprend quand on apprend cette théorie.
Il y a quand même quelque chose d'assez fascinant au point de vue du calcul des probabilités, que vous avez parlé de, à la roulette, le zéro sortant un million de fois de suite, à la même probabilité finalement que toute suite de nombres. Et par conséquent, on arrive à cette conclusion que tout ce qui arrive est hautement improbable.
Oui, alors ça c'est un problème, disons, général. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les résultats qu'on va donner, ce n'est pas un résultat du type « on observe cette suite de nombres ». Ce qu'on va dire, et c'est d'une certaine façon ce qui est sous-jacent quand on dit que la dimension fractale ici d'un amas de percolation, le bord est 4 tiers, c'est dire que, avec probabilité 99,99999, le bord de la longueur du bord sera de l'ordre de grandeur de le diamètre à la puissance 3 quarts. D'accord ? Donc on ne cherche pas à dire voilà ce qu'on observe et c'est ça l'événement. L'événement typique, non, on cherche à regrouper d'une certaine façon les événements en disant, voilà, qu'est-ce que c'est l'événement typique? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? De la même façon que tout à l'heure, on disait la hauteur de cette courbe, hein, c'est de l'ordre de racine de la longueur. Donc ça, c'est quelque chose, on met en commun toutes les courbes qui ont une hauteur de l'ordre de racine de la longueur, et puis on dit, bah, ça, c'est toujours, presque toujours le cas, alors que celles qui, par exemple, vont à une distance plus grande, et bien celles-là, elles se produisent, si on les met toutes ensemble, elles se produisent avec une probabilité très très faible. D'accord ? Donc il y a cette idée qu'on ne s'intéresse pas donc dans l'objet continu, finalement limite, c'est un peu comme quand vous dites je lance mon javelot, hein, et alors quelle est la probabilité, quel est l'endroit où il va tomber ? Alors évidemment, suivant la mesure, si vous mesurez au millimètre près, ou au centième de millimètre près, ou au micron près, vous avez envie de dire chaque événement va se produire avec probabilité nulle. D'accord, mais il tombe quelque part, et il y a quand même une certaine chance pour qu'il tombe entre 20 mètres et 21 mètres, enfin, suivant si vous êtes entraîné avant. Et donc, c'est un peu toujours cette idée du passage du discret au continu et de comprendre finalement quelles sont les questions, d'essayer de regrouper les choses dans le continu de façon à pouvoir être mesuré par des choses adéquates.
Bien, bah, écoutez, merci beaucoup, Van de Lin-Werner.